Bienvenidos a La Vaina.
Le programme des musiques latino-américaines sur Radio Vassivière. Présenté ce soir par Pancho et Thomas. Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle saison de La Vaina. On est très très content de vous retrouver. Ça fait déjà 2 ans et on a l'honneur de recevoir pour entamer cette nouvelle année Thomas, un ami qui a pas mal bourlingué par l'Amérique latine. On t'a beaucoup vu au Mexique, on t'a vu en Bolivie, et t'es passé nous voir sur le plateau avec pas mal de musique dans ta besace, qui va nous passer notamment par la Cordillère des Andes, c'est bien ça ?
C'est cela, oui.
Ouais. Alors, on a concocté une petite progression dans l'histoire de la musique bolivienne, et tu, plus particulièrement à travers un mouvement musical, c'est ça, plus ou moins ou,
On peut parler de l'invention du folklore, à partir de la fin des années 60, et puis après le mouvement de la Nueva Canción Latinoamericana, donc la variante bolivienne de ce mouvement-là, et puis ensuite le retour sur le devant de la scène, la musique proprement indigène faite par des indigènes, donc les modifications un peu de la scène nationale avec une place plus importante aux indigènes eux-mêmes, quoi. Pas seulement aux métis urbains qui chantent des thèmes indigènes.
Alors, le premier morceau qu'on va écouter s'appelle ?
Alors, c'est un disque des Jairas qui s'appelle San Benito. Donc les Jairas, c'est un peu l'un des premiers groupes de jeunes des villes qui ont repris des thèmes indigènes traditionnels, tout en écrivant eux-mêmes des chansons. Donc c'est un peu des cantautores, des auteurs-compositeurs-interprètes, mais qui s'inspirent ou qui reprennent des thèmes indigènes et qui ont un peu inventé un format de musique qui est le groupe réduit, avec un charango, une guitare, une quena, donc la flûte andine, et puis un chanteur qui souvent fait un peu de percussion, le bombo, le petit tambour andin. Donc c'est un peu un style de conjunto d'ensemble qui ensuite s'est multiplié avec plein d'autres groupes. Donc c'est un peu les Beatles de la Bolivie, à la fin, à partir des années 66-67. Donc Los Jairas.
Eh bien, on va écouter tout de suite les Beatles boliviens et on reviendra plus en détail sur les paroles. Le morceau s'appelle
San Benito, c'est un tundinki.
Saya de tundiquis cantando, negra samba, aunque tunante, siempre adelante, negra samba, aunque tunante, siempre adelante. San Benito para la fiesta de los negritos. Hay un lorito con su monito, hay un lorito con su monito. Es un regalo de San Benito para la fiesta de los negritos. Un viejo caña con su caballo, un viejo caña con su caballo. caballo, están durmiendo en su cabaña, están durmiendo en su cabaña. Un viejo caña con su caballo, un viejo caña con su caballo, están durmiendo en su cabaña, están durmiendo en su cabaña. Bailando con la saya de tundiquis, cantando con la saya de tundiquis, bailando con la saya de tundiquis, cantando. Negra samba, aunque tunante, siempre adelante. Negra samba, aunque tunante, siempre adelante. Negra samba, aunque tunante, siempre adelante. Negra samba, aunque tunante.
C'était San Benedito interprété par Los Jairas, c'est bien ça?
Los Jairas.
Los Jairas.
Ouais, ça veut dire, je crois, les feignants en Aymara, certainement.
Alors, l'Aymara qui est?
Alors, qui est une langue de l'altiplano bolivien, donc la deuxième langue indigène la plus parlée en Bolivie après le Quechua, qui sont les deux groupes, on peut dire indigènes, de la partie andine de l'altiplano, de la cordillère et des vallées. Donc, la Bolivie étant séparée en deux grandes parties, l'ouest andin, donc les grandes montagnes et les vallées, et ensuite sur les parties basses de plaine, le bassin de l'Amazone vers le nord et le bassin du Paraguay vers le sud-est, qui sont les parties basses et donc qui sont peuplées d'autres groupes indigènes beaucoup plus nombreux que ceux de l'altiplano, avec une plus grande diversité, on va dire, de langues et d'organisation sociale. C'est un peu deux grandes parties de la Bolivie, la montagne et la plaine, les forêts tropicales, et puis les punas, l'altiplano, les steppes, les vallées rocailleuses.
Donc la Bolivie, donc, ouais, ce pays enclavé comme ça au cœur de la cordillère des Andes, qui n'a pas d'accès à la mer d'ailleurs, c'est un grand drame national de l'histoire bolivienne, et donc avec une composante indigène très importante dans la population.
Oui, tout à fait, ouais, c'est un des pays les plus indigènes de l'Amérique latine, enfin en termes de proportion, avec le Guatemala. Après, ça dépend toujours en fonction des recensements, des questions qui sont posées au recensement. La variation, en fait, de la population indigène est un thème très politique, en Bolivie notamment, parce qu'il y a eu des grands mouvements sociaux indigènes, et une tentative, là, avec le gouvernement d'Evo Morales, la nouvelle constitution, de réorganiser le pays en fonction de coutumes, de systèmes politiques indigènes. Donc voilà, c'est une question très politique, mais on peut dire que c'est un pays très indigène, ouais, où, en tout cas, la culture indigène est très forte, elle a une très grande place dans la culture nationale.
Alors on va revenir sur Los Jairas qu'on vient d'entendre. C'était quel style de musique, ça?
Alors ça, c'était une sorte de... C'était une saya, en fait. C'était donc une chanson, en fait, traditionnelle, mais recueillie par le leader des Jairas, Edgar Yayo Joffre. Voilà, les jeunes, en fait, des villes, je pense, à cette époque...
Quelle année
étudié là, en 68. Mm-hmm. Donc commençaient à s'intéresser aux traditions de la campagne, et à recueillir et faire des récopilations de musique traditionnelle, et puis à les remettre un peu à leur sauce. Donc là, c'était une saya. La saya, en fait, c'est le rythme caractéristique des Noirs, des Yungas de La Paz, donc dans la partie tropicale du département de La Paz.
Quand on dit les Noirs, effectivement, c'est des descendants d'esclaves qui...
Voilà, des gens qui étaient dans les travailleurs esclaves, et ensuite, bon, qui sont indépendantisés, mais travailleurs dans les haciendas de coca, donc dans la partie tropicale de La Paz. Et qui, en fait, se sont aïmaraïsés, quoi. Ils sont restés noirs. Bon, ils sont métissés quand même, mais il y a une forte culture noire, enfin, africaine, on va dire, notamment avec ce rythme, la saya. Et puis, mais ils se sont mis à la mode aïmara. Ils s'habillent comme les aïmara, ils mangent comme eux, ils cultivent comme eux, etc. Donc, c'est une sorte de métissage afro-bolivien.
Alors, on va continuer ce trajet au cœur de la Bolivie. L'artiste suivant s'appelle Alfredo Dominguez.
Voilà, Alfredo Dominguez, donc c'était le premier guitariste des Jairas. Il n'était pas dans la chanson qu'on vient d'entendre. Voilà, l'une des personnes qui sont à la base aussi du, du nouveau folklore, on va dire, bolivien, et de la nationalisation des musiques indigènes. Donc, et Alfredo Domínguez, donc, c'est quelqu'un qui est originaire de Tupiza, vers le sud de la Bolivie, en allant vers Tarija, et qui a une expérience de migration en Suisse. Donc cette chanson-là, Si Señora, parle de cette expérience-là sur le mode humoristique. Écoutez-le.
Sobre todo italianos y españoles. Una vez una señora me mira y me dice: ¿Es usted brasileño, señor? No, señora, yo soy boliviano.
Boliviano, boliviano, boliviano.
Ah, un otro italiano. Para llegar hasta aquí. He nadado, pues, señor. Señora, se ha muerto esta señora. Me mira y me dice: Yo estoy segura que tú eres un indio. Sí, señora. Pero, ¿dónde están tus plumas? En la aduana me han quitado, señora.
Alfredo Domínguez, c'est cela Thomas, et c'était une chanson bien rigolote.
Donc comme beaucoup de Boliviens en fait, Alfredo Domínguez a dû aller travailler, essayer de travailler en Europe, et il s'est retrouvé en Suisse. Et donc là il raconte dans la chanson un peu ses petits dialogues avec des señoras, des madames quoi, bien pensantes je pense, qui lui demande d'où il vient, etc. Et donc lui, il répond, je viens de la Bolivie, c'est où? C'est loin. Je suis sûr que t'es un Indien, oui, madame. Mais où sont tes plumes? Elles sont à la douane, señora. Voilà, bon,
comment t'es venu à la nage?
Voilà, comment t'es venu en nageant. Bon, c'est l'expérience du migrant un peu universelle, où il arrive de loin. Et puis, les gens ne comprennent pas très bien... sa situation réelle, quoi.
On a parlé en introduction donc, de ce mouvement de la Nueva Canción, la nouvelle chanson bolivienne. Est-ce que tu peux revenir dessus?
Ouais, en fait, on parle surtout de Nueva Canción latino-americana, plutôt à partir des années 70, j'imagine, mais fin 60 aussi. Donc, à partir de Violeta Parra au Chili. Ensuite, il y a Quila Payón, Victor Jara. Donc, ça part pas mal du Chili, j'ai l'impression. Mais après, tu as une explosion aussi dans ces années-là, qui sont aussi des années de politisation très importantes. Et justement, où les jeunes... de la ville ou alors récemment arrivés de la campagne, ou etc., bon, reprennent des thèmes de leur propre culture, essaient de récupérer leur culture, tout en inventant des nouvelles chansons et en prenant des influences extérieures, en les mélangeant avec ces cultures locales, indigènes, régionales, etc., ou alors de musique nationale d'origine espagnole, enfin selon les pays, quoi. Mais ils reprennent ça, ils les mélangent avec des nouvelles influences extérieures, ça peut être avec du jazz, du blues, n'importe, et puis aussi du rock, etc., avec les nouveaux instruments aussi qui arrivent à l'époque dans ces pays-là, ou qui s'y diffusent en tout cas, et puis aussi ils écrivent des chansons à contenu souvent politique. Donc là, c'est ce que j'ai essayé de faire dans la sélection, prendre des chansons où il y a des thèmes, on va dire, modernes. C'est pas des chansons folkloriques dans le sens avec des thèmes vraiment culturels propres, ethniques entre guillemets, ou qui correspondent à des cérémonies, des rituels, à des mariages. C'est plus des chansons qui reprennent des rythmes et des mélodies indigènes tout en ayant des paroles avec des contenus politiques. Donc La Nueva Canción, c'est un peu voilà ce mouvement en Amérique latine dans les années 70, avait un peu partout quoi. Il y a aussi cette
dimension de finalement relégitimer des musiques et des traditions et des cultures qui étaient niées par le pouvoir et dénigrées.
Ouais. Oui, tout à fait, ouais, il y a ça. Ça correspond un peu, et puis on a ça aussi en Europe, en France, on revient aussi à remettre au goût du jour les musiques bretonnes, les musiques occitanes. Mais avec des instruments électriques ou avec des créations, des innovations par rapport au code de ces musiques traditionnelles. Donc c'est un mouvement mondial en fait, je pense.
L'artiste suivant sur cette playlist s'appelle Ernesto Cabur.
Voilà, lui c'est le charanguista, le joueur de charango de Los Rairas, donc est un des amis d'Alfredo Dominguez, donc c'est la même...
Le charango, c'est cette petite guitare hein, qui...
Voilà, c'est une sorte de petite guitare à 10 cordes, c'est une sorte de petite guitare faite avec un corps de tatou de Kirkincho à la base, une sorte de petit tatou, mais ensuite a été faite en bois, etc. Donc, Ernesto Cabur lui-même a inventé beaucoup d'instruments de musique, c'est un... Voilà, et il a fait beaucoup pour que le charango reprenne aussi des lettres de noblesse, on va dire, c'est-à-dire et un statut d'instrument reconnu sur une scène nationale et internationale, parce que c'est un virtuose et parce qu'il a inventé beaucoup autour de cet instrument traditionnel.
Le morceau qu'on va écouter s'appelle
La Desconocida, c'est un thème, une cueca, donc un type de musique, un rythme traditionnel des vallées, surtout de la Bolivie, notamment de Cochabamba ou de Sucre, enfin surtout Cochabamba et Tarija. Et voilà, La Desconocida, avec le charango, la guitare muyu muyu, qui veut dire retourner en quechua, que lui l'a inventé. Il y a une guitare à deux faces, une face à cordes et une face plus... à cordes métalliques et une autre face où elle a une caisse plus normale.
Thank you.
La Desconocida par Ernesto Cavour.
Voilà.
Le charango, pour la petite histoire, c'était un instrument que les Andins cachaient sous leurs vêtements parce que les Espagnols leur avaient interdit de jouer d'un instrument de musique. Donc c'était elle était petite pour cette raison.
Et d'ailleurs, Ernesto Cavour, il en a inventé une. C'est comme un pistolet de James Bond, il se met dans la manche. Donc pour ceux qui passent à La Passe, il a un musée du charango et des instruments qui est très intéressant.
À La Passe, on nous écoute sur le 88.
Voilà.
On continue cette exploration dont le prochain artiste ou groupe s'appelle Rupai.
C'est cela, ouais, qui veut dire chaleur, rayonnement, produire la chaleur, notamment du soleil.
En quelle langue ?
En aymara, en quechua.
Toujours.
En quechua aussi. Ouais. Le quechua est la langue des Incas et les aymara, en fait, c'est la langue, on va dire, des peuples indigènes qui se trouvaient sur l'altiplano avant que les Incas en fassent la conquête. Quelques dizaines d'années avant l'arrivée des Espagnols dans cette partie de l'Amérique. Donc voilà, ce prochain groupe, c'est Rupai, donc un groupe un peu de la même époque que Los Jairas, quelques années après, et un groupe qui remet aussi sur le devant de la scène des thèmes indigènes, plus de l'altiplano, donc qui se caractérise plus par les instruments avant, la tarka, le sikuri, etc., et qui participe, on va dire, politiquement d'une vogue indianiste. C'est l'époque du manifeste de Tiwanaku, qui est une cité, donc ancienne cité pré-incaïque, qui se trouve sur l'altiplano, pas loin du lac Titicaca. Et dans les années, ça doit être en 73, des jeunes aymara politisés et qui avaient fait des études en ville ont fait un manifeste pour revendiquer leurs racines culturelles. C'est un peu le début de ce renouveau culturel, la revendication d'origine culturelle différente de la culture dominante, on va dire d'origine espagnole ou métisse, créole. Et donc, et ces jeunes qui ont fait le manifeste de Tiwanaku, après, ont fondé un mouvement un peu de rénovation culturelle, on va dire, à travers les médias modernes, la radio, très importante, la radio communautaire à l'époque, et puis aussi certains membres de signataires et membres de ce mouvement, qu'on dit catharistes, sont ensuite participés à la rénovation du syndicalisme paysan en l'ancrant vraiment dans la... non plus seulement dans la lutte des classes de paysans contre exploitateurs, mais aussi d'indigènes contre une culture dominante. Donc ils ont articulé le thème social et les revendications culturelles, et ils ont été à la base d'un mouvement important d'un ethno-nationalisme aymara qui ensuite a vraiment modifié la scène politique en Bolivie jusqu'à nos jours. Donc ce groupe Rupai, il exprime un peu en musique cette revendication culturelle, notamment à travers ce thème qu'on a choisi, qui est Ratchaourou, le grand jour. Donc c'est écrit par Mario Gutiérrez, un peu le leader de Rupai, et donc voilà, qui est devenu un auteur important aussi dans cette Nueva Canción bolivienne. Donc Ratchaourou.
Thank you. Amuya sipanyani kutaskiwai Kakachauru kutaskiwai Amuya sipanyani kutaskiwai Tapacha yakida kaspi Amuya sipanyani kukusini Tapacha yakida kaspi Amuya sipanyani kukusini Tatanak mamanaka Ukakachauru kutaskiwai Tatanak mamanaka Amuya sipanyani kutaskiwai
Chara Uru par Rupai, est-ce que je prononce bien
Racha Uru, le Racha grand jour, donc une chanson... Ouais.
J'ai pas révisé mon Aymara. Je crois qu'ils ont joué en Europe, ces gens-là.
Oui, aussi bien Rupai que Los Rairas, ou en solo Ernesto Cavour, ou Alfredo Dominguez, c'est des gens qui ont beaucoup joué partout dans le monde, mais notamment en Europe et notamment en France. Où en France, il y a une grande vogue de la musique andine dans les années 70. On en retrouve souvent dans les discothèques familiales, quelques disques comme ça, vinyles de groupes. Il y a eu des nombreux groupes quoi, qui sont produits. Donc, voilà.
Ouais, et on les traque dans les vides-greniers d'ailleurs.
Voilà, c'est ça. Et donc, ils étaient beaucoup ont même vécu en Europe, ou se sont même basés en Europe, notamment en Suisse, et notamment le groupe Rupai et Mario Gutiérrez, son leader. Et
également pour fuir aussi les persécutions politiques.
Voilà, c'est ça. Parce que les années 70, donc les années de la Nueva Canción Latinoamericana, c'est ce qu'on disait, c'est des chansons aussi de résistance. Et on résiste depuis les cultures populaires. Donc, et on résiste contre les dictatures militaires, donc à partir de 71, mais déjà depuis 64 en Bolivie. Et puis à partir de 73 au Chili, et puis 64, si je ne me trompe pas, au Brésil, et puis ensuite, 76 en Argentine. Voilà, enfin, c'est des années où tous ces jeunes qui étaient aussi des militants, parfois même surtout des militants, et puis des artistes indépendants et critiques, ils sont partis s'exiler. Ouais.
Alors on va passer à un autre artiste important, en tout cas de ces années-là, en Bolivie, qui est Luis Rico, que les auditeurs de la Baena ont déjà entendu une fois, pour ceux qui sont très fidèles, puisqu'il avait participé au concert de soutien au Nicaragua en 1984, cet immense mouvement de solidarité pour au cours de la guerre civile. Un mot de ce Luis Rico, Thomas ?
Oui, alors Luis Rico, voilà, il participe encore de cette nouvelle scène du folklore bolivien, mais même plutôt latino-américain, parce qu'il est moins, il pioche moins dans le répertoire traditionnel. C'est plus un cantautor, un auteur-compositeur-interprète, D'ailleurs, il chante tout seul à la guitare, il a une moustache, il ressemble un peu à Georges Brassens, le Georges Brassens bolivien.
Après les Beatles boliviens, on va écouter le Georges Brassens bolivien.
Voilà, et donc il participe de cette scène un peu comme avec Soledad Bravo, avec Silvio Rodriguez, vraiment là une chanson plus de musique, ou avec le groupe qu'on écoutera après, Saba y Nueva, des gens qui chantent des chansons qui viennent d'un peu partout, de la Patria Grande d'Amérique du Sud, voilà, ouais. qui ont une échelle plus vaste en fait.
Et très lié au milieu étudiant également.
Et très lié au milieu étudiant et aux mouvements sociaux de son époque. Il a fait de nombreux séjours en prison, il a été torturé. Enfin, c'est quelqu'un qui était très très engagé pour le coup. Et voilà, donc là, la chanson qu'on a sélectionnée s'appelle Pucha Caray. Ça raconte en gros, vous écouterez, la destinée, la trajectoire de paysans qui partent chercher des terres vierges, des paysans andins qui s'en vont chercher des terres vierges ou cultivées dans les parties de forêt tropicale, enfin vierges entre guillemets, où ils peuvent s'installer, défricher et cultiver, et de la dureté de cette vie-là et de leur isolement et de la lutte de tous les jours que ça présente.
Thank you.
Puchacaray par Luis Rico. Cette chanson, elle parle aussi des cocaleros, je crois, Thomas.
Oui, donc ces paysans donc des Andes, des montagnes de plus en plus arides, il y a des grandes sécheresses avec l'effet El Niño dans les années 80, beaucoup s'en vont dans les tropiques chercher des terres. Donc dans des régions où il n'y a pas grand monde, voire personne. Et ils s'y installent et ils y défrichent la forêt et ils y plantent de la coca beaucoup, enfin dans les régions qui s'y prêtent, c'est-à-dire ces Yungas du nord de La Paz et les tropiques du département de Cochabamba. Donc c'est des montagnes tropicales en fait, donc la coca elle pousse bien là-bas. Et donc il y a eu une grande vague de plantations de coca à partir des années 70 et puis dans les années 80 et une partie de cette coca elle était utilisée pour fabriquer de la cocaïne et donc avec la complicité des gens au pouvoir quoi pendant un moment et puis donc voilà tous les réseaux internationaux qui peuvent tourner autour de ça, le paysan n'ayant qu'un bénéfice minime quoi dans la chaîne de la fabrication de la cocaïne bien sûr, donc c'est le dernier maillon de la chaîne. Et donc là dans la chanson à un moment on voit arriver les militaires qui viennent défricher les champs de coca du paysan qui est venu là s'installer et qui se retrouve à nouveau avec rien. Donc à partir des années vers 1988, il y a eu un programme sous l'influence de la guerre contre la drogue des États-Unis, etc., qui était donc pourri par le trafic de cocaïne, mais qui ont essayé, enfin, soi-disant, de lutter contre en éradiquant les cultures en Bolivie, au Pérou, en Colombie. Donc, il y a eu sous l'influence des États-Unis, un programme d'éradication de la coca en Bolivie qui a fait de nombreux conflits entre paysans et militaires, et de nombreux morts aussi, et qui a été à la source aussi d'un mouvement syndicaliste paysan très puissant, les cocaleros, surtout ceux du Chaparré, de Cochabamba, dont le principal dirigeant était et encore Evo Morales, l'actuel président de l'État, maintenant de l'État plurinational et communautaire de Bolivie. Donc voilà, c'est un peu c'est cette expérience-là.
Merci pour cette remise en contexte, Thomas. Ouais. On entend peu parler des cocaleros par ici et de leurs problèmes. On va enchaîner avec une autre figure importante de ces années-là, qui est le groupe Savia Nueva, que tu m'avais fait découvrir il y a une dizaine d'années. Je t'en suis très reconnaissant. On a eu l'occasion de passer notamment le titre Montilla dans la Vaina, mais c'est un autre titre que tu as choisi. Là.
Oui, alors là, Los Mineros Volveremos, donc un titre d'ailleurs dont les paroles ont été composées par César Junaro et Luis Rico. Donc César Junaro, c'est l'un des membres du groupe Savia Nueva avec son frère Jaime. Et donc Los Mineros Volveremos, ça a été composé dans le contexte de la marche pour la vie en 1988, où il y a eu à partir de 1985 un fort plan d'ajustement structurel en Bolivie qui consistait à congédier des milliers de mineurs qui étaient le secteur économique le plus important, enfin de l'économie, on va dire, moderne, industrielle, en Bolivie.
Les plans d'ajustement structurel, hein, pour rappeler, c'était ces mesures ultralibérales qui étaient imposées par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale.
L'équivalent de l'austérité actuelle en Europe ou en Grèce, par exemple. Là, on débauche le plus de... et on privatise le plus de secteurs de l'économie où l'État avant était présent. Donc les mineurs, le mouvement révolutionnaire le plus important en Bolivie depuis les années 20-30, et décapité quoi, et il y a une marche pour la vie et la dignité qui est organisée en 88 et qui est encerclée à Patacamaya par l'armée et qui est défaite finalement. Donc c'était le chant du signe du mouvement mineur, et là les frères Junaro ils disent Los Mineros Volveremos, vous avez gagné une bataille mais pas la guerre,
vous n'en avez pas fini avec Savia Nueva dans la Vaina.
Thank you.
las calles, en las plazas, encontrarán nuestros pechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. En los ojos, en las manos, traemos dolor y esperanza. Y aquí todos nos quedamos desparramados. Las noches de San Juan, si nos quitan el pan a fuerza de dictaduras, nuestra lucha será dura por pan y por libertad. En las calles, en las plazas, encontrarán nuestros pechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos.
Mineros volveremos, les mineurs reviendront, interprété par Savianueva dans cette vaina, avec comme invité spécial Thomas qui nous parle de musique bolivienne. Qu'as-tu donc dans ta besace? Qu'as-tu ramené d'autre?
Alors, eh ben, on peut continuer puisqu'on était avec Savianueva et les frères Junaro, avec leur sœur Emma Junaro, qui interprète ici une chanson de Matilde Casasola, qui est une cantautor. Importante aussi bolivienne, qui a écrit beaucoup de chansons pour voilà, guitare et en s'accompagnant à la guitare, donc sur des rythmes traditionnels, surtout des cuecas, donc une musique plus métisse, et donc voilà, là c'est La Sonrisa de Piedra, donc de Emma Junaro, sur une chanson composée par Matilde Casasola.
Esa tarde que sabe de nuestras penas, de nuestras penas, que sabe de nuestras penas, que sabe. Sonreír se parecía cuando yo te repetía que te amaba para siempre, y su sonrisa de piedra el alma me estremecía, el alma me estremecía. Las verdades eternas que rigen nuestro destino, que que rigen nuestro destino, pero que sabe de ausencias, que sabe de desengaños, que puede saber de olvido, como nunca se ha movido el monolito de piedra, el monolito de piedra.
C'était Marjunaro dans la vaina. On va découvrir une autre chanteuse maintenant, une chanteuse bolivienne qui a une trajectoire tout à fait singulière, c'est Luzmila Carpio. Tu peux nous en dire un mot, Thomas ?
Oui, donc Luzmila Carpio, elle est originaire d'un Ilu, donc les communautés andines originaires, on va dire, communautés indigènes andines, de la région du Nord Potosí, la Ilu Aymaya, si je ne me trompe. Le Nord Potosí, donc c'est une région qui est particulière en Bolivie parce que c'est enfin l'une des zones de la Bolivie, des Andes boliviennes, où se sont conservées le plus les traditions, on peut dire, et les types d'organisations préhispaniques, voilà, pour résumer, où il y a le plus de, voilà, et une résistance politique aussi indigène importante depuis l'époque coloniale. Et une présence minière aussi par la suite. Donc voilà, c'est un peu un cocktail un peu explosif, le Nord Potosí, à la fois très indigène, à la fois très mineur. Et voilà, donc Luzmila Carpio, elle est de cette région-là. Elle est devenue une star de la scène nationale étant toute jeune. Et puis ensuite, donc en chantant des chansons du cru. Et ensuite, elle s'est mise à chanter des choses un peu plus politiques, donc dans la vogue du retour aux traditions indigènes et un peu de revenir aux sagesses indigènes. Et puis aussi voilà, de parler, de nourrir la mémoire des héros des luttes et des résistances indigènes. Et elle-même ensuite donc, est devenue ambassadrice de la Bolivie en France lorsque Evo Morales a été élu président de la République. C'était la première ambassadrice en France qui l'ait nommée, Luzmila Carpio, parce qu'elle résidait aussi en France, en Suisse. C'était la femme de Mario Gutiérrez, le leader des Rupai. Donc voilà, elle était c'est une femme de la campagne, mais qui a intégré cette scène culturelle et puis ensuite qui est montée, on va dire, à l'international. Donc voilà, elle a beaucoup tourné aussi dans le monde et voilà, elle a changé de style, elle a raffiné entre guillemets, enfin fait un style plus sophistiqué.
Et quel est le morceau que tu as choisi pour...
Alors là, c'est un morceau qui s'appelle justement Bartolina Sisaman. Donc Bartolina Sisa, c'était la femme de Tupac Katari. Julian Apaça, alias Tupac Katari, c'était son nom de guerre, on va dire, qui est l'un des leaders de la grande insurrection andine de 1781. Il est connu en Bolivie pour avoir fait le siège de La Paz, un siège qui était très long et très meurtrier, où il a assiégé la capitale, enfin la ville la plus importante à l'époque en Bolivie, La Paz. Et donc sa femme était Bartolina Sisa, et il y avait cette tradition qui existe toujours dans les Andes du chachawarmi, homme-femme, tout est homme-femme, la dualité, la complémentarité entre les sexes, donc une autorité communale est toujours avec sa femme. Donc Bartolina Sisa a un rôle très important dans la mémoire des luttes indigènes en Bolivie, voilà. Et la fédération d'ailleurs paysanne, des syndicats paysans s'appelle Bartolina Sisa, donc voilà, ça c'est... cette chanson Bartolina Sisaman, c'est revenir, aller vers Bartolina Sisa.
Oui, alors avec ce thème important, effectivement, de faire revivre cette mémoire de lutte des peuples indigènes qui n'ont pas que été soumis à un moment, mais qui se sont aussi parfois levés justement contre l'oppression et la colonisation.
Ouais, ils n'ont pas arrêté de se soulever, ou en tout cas d'essayer de tirer les ficelles qu'ils pouvaient tirer à certains moments, en participant aussi des institutions coloniales, et à d'autres moments, quand l'exploitation était trop forte, ou quand surgissait un leader, il y a eu un mouvement avec des gens qui l'incarnaient, il y a eu des vastes mouvements, donc celui de 1781, qui était à la fois en Bolivie, au Pérou, et qui a gagné toutes les Andes, donc avec Tupac Katari. Après, voilà, il y a eu plusieurs grandes insurrections comme ça, mais la résistance, elle a été continue, bien sûr.
Thank you.
Dolina Sisaman, Lusmila Carpio et sa voix si particulière qui chante en quechua, en aymara
Elle est justement d'une région où les gens sont trilingues, aymara, quechua et espagnol. Donc là, c'est en quechua. Mais elle a des chansons aussi en aymara.
Et ainsi s'achève cette baïna première de notre troisième saison avec comme invité spécial Thomas qui est un grand connaisseur de... Je savais que j'allais te faire sursauter en disant ça. En tout cas, un fin connaisseur de la culture andine. Merci à toi, Thomas. T'es le bienvenu pour nous rendre visite.
Et je vous remercie, Radio Vassivière. Et puis,
tous autant qu'on est.
Tous autant que vous êtes, et ainsi que vos auditeurs. Et...
sur le plateau et en Amérique latine. On va se quitter avec un morceau d'un groupe qui s'appelle Norte Potosí. Tu peux nous en dire un mot ?
Pour rester dans cette région particulière de la Bolivie, donc le Nord Potosí, donc le groupe justement qui s'appelle Norte Potosí, c'est un groupe emblématique qui est formé par des gens comment ça s'appelle, Lusmila Carpio, par des gens qui sont issus vraiment de communautés rurales, donc paysannes, indigènes. Donc à la différence peut-être des autres qu'on a entendus auparavant, qui étaient plutôt des gens des villes qui s'inspiraient des chansons des campagnes, là c'est des gens des campagnes qui chantent des chants des campagnes, mais dans la continuité aussi de cette histoire de la création, la recréation permanente d'un folklore national, dans le bon sens du terme, d'une musique populaire qui est vivante et qui est réinventée avec autour de nouveaux thèmes, autour de nouvelles figures, mais voilà, là qui est plus ancrée quand même dans des rythmes, des motifs traditionnels. Donc le groupe Norte Potosí, avec la voix aussi particulière de Cornelia Veramendi Mamani, donc un peu la voix des femmes de cette région-là, de la manière populaire indigène de chanter, les voix un peu au perché, un peu nasillarde. Donc là, la chanson s'appelle Putukum.
Putukum. On va se quitter là-dessus. Vous pourrez réécouter cette émission sur le www.radiovassivière.com. On se quitte avec Norte Potosí et on vous dit ciao ciao, bye bye, hasta luego.
Et Rayaya Bolivia.
Ce qui veut dire
vive la Bolivie.
Caigo, San Pedreños, caigo.